Réforme ou contre-réforme, c'est une des idées qu'on a pu entendre ce 28 janvier dernier au grand débat de l'ISS avec, entre autres, Mireille Pétremblay, qui est professeure associée à l'UQAM. Bonjour Mireille.
Bonjour Benoît.
Et il y a aussi avec nous au téléphone le truculent coordonnateur, le truculent organisateur communautaire de la Coalition Solidarité Santé. Je suis désolé Jacques-Benoît, je vous ai déjà, j'ai déjà vendu la mèche.
Le mot truculent. Merci, bonjour.
Bonjour. En fait, je veux juste situer les choses. Vous êtes évidemment les deux membres du comité organisateur de l'événement qui s'est tenu le 28 janvier dernier. Mais il faut dire que globalement, vous œuvrez tous les deux dans le domaine, évidemment, de la santé et vous cherchez, je ne sais pas si je dis bien les choses en disant ça, mais vous cherchez à assurer sa plus grande démocratie possible. Est-ce que c'est une bonne manière de vous présenter les deux, de vous réunir?
Exact.
Bon, pour elle, ça va, Jacques-Benoît, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis assez d'accord avec ça, moi.
Bon, OK. Ben, c'est bien, j'ai pas des invités qui ont envie de s'obstiner aujourd'hui. C'est excellent. Alors, on commencerait d'abord avec Jacques-Benoît. J'aimerais que vous vous présentiez un peu mieux. Je sais que vous êtes de la Coalition Solidarité Santé. Qu'est-ce que c'est exactement?
La Coalition Solidarité Santé, c'est une coalition provinciale qui regroupe des syndicats, des organismes communautaires, féministes et même religieux. Ça existe depuis à peu près 25 ans autour de ça. Ça défend le droit à la santé et le système public de santé.
C'est important. Système public. Système public. Parce que les gens qu'on a vus le 28 janvier dernier à l'UQAM, le débat de l'Institut Santé Société, ralliait énormément de gens qui ont même été des artisans du système public de la santé. Il y avait même un sous-ministre à la santé qui était là. Il y avait des chercheurs, des chercheuses, des gens du social aussi, dimension très oubliée, semble-t-il, dans ces réformes. Donc, vous êtes tous les deux, ça vous rallie de nouveau, Mireille Tremblay, Jacques-Benoît, des défenseurs du système public de santé.
Oui. Et défenseurs, on travaille dans une perspective tripartite. Oui. C'est-à-dire, on dit, y avait des chercheurs, il y avait des gens du milieu de l'intervention et il y avait aussi des personnes des comités d'usagers.
Bien sûr, donc des
dans
personnes.
Oui. Donc, on part du point de vue des citoyens, des citoyennes pour voir... quel est l'impact de la réforme du point de vue des citoyens? Bien sûr, les intervenants sont des spectateurs ou des observateurs ou ont une position privilégiée pour voir ce qui se passe. Mais
il ne faut pas oublier les gens qui ont besoin de ces services.
Exact.
Mais on a tous besoin de ces services. Et je reviens à Mireille Tremblay. Vous avez travaillé pendant des années dans le système de santé. Vous avez même été gestionnaire. Vous êtes psychologue de formation. Et un jour, vous avez décidé un peu de débarquer pour embarquer dans la recherche ou faire parler un peu les personnes. J'aimerais ça qu'on en parle un peu parce que c'est important sur ce qui s'est passé le 28 dernier. Ça dit quelque chose sur vos démarches, votre démarche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Mireille, pour que vous sortiez du système puis que vous vous l'embrassiez ou comme ça de nouveau, différemment?
En fait, c'est un parcours, évidemment, sur plusieurs années. Et j'ai fait un doctorat dans les années 90 sur les conditions de la participation démocratique dans le réseau de la santé des services sociaux. Et je travaillais en planification, coordination des services à cette époque-là. Donc, c'est important. Il y a eu une décennie où on a insisté beaucoup au Québec pour faire participer la population et les différents acteurs à la gouvernance, à l'administration, à l'amélioration des programmes de santé et de services sociaux. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus et je suis devenue, de fil en aiguille, administratrice et directrice de la Fédération des centres de réadaptation en déficience intellectuelle. J'ai terminé mon doctorat et je suis devenue directrice de recherche dans un établissement en déficience intellectuelle.
Il n'y a plus beaucoup de recherches aujourd'hui avec les réformes. Sur la déficience intellectuelle, est-ce qu'il demeure encore des choses?
Il y a encore des instituts de recherche, mais à l'époque, dans les années 2000, il y avait un mouvement pour développer la capacité des établissements de faire de la recherche. Des subventions aux chercheurs d'établissements et tout ce profil-là ou ce système-là s'est effondré en quelques années. Et c'est là que j'ai fait le passage. En milieu universitaire, recherche et enseignement.
Bon. Jacques-Benoît, vous êtes à la barre de la Coalition Solidarité Santé. Vous venez peut-être plus du milieu communautaire, mais vous travaillez avec beaucoup de gens qui défendent le système public. Qu'est-ce que vous faites dans les dernières années? Quel est votre rapport au système de santé depuis quelques années?
Je dirais que, moi, je suis... suis à la coordination de la coalition depuis 2011. Et depuis 2011, on a eu le temps de passer quand même trois gouvernements différents, ce qui est quand même relativement beaucoup en peu de temps.
Voilà.
Quand je suis arrivé, il y avait, c'était le gouvernement Charest qui était là, et qui, si on se souvient bien, nous avions la taxe santé qui existait à ce moment-là, qui avait été mise sur pied par le gouvernement Charest, le ministre Raymond Bachand. Nous avons mené une campagne contre, pour l'abolition de cette taxe santé-là, qui était vraiment inéquitable, dans la mesure où c'était un montant égal, peu importe le revenu des gens qui devaient la payer. Mm-hmm. Ça allait complètement à l'encontre de ce qui base notre système de santé et services sociaux qu'on a mis sur pied il y a plus de 40 ans et qu'on voulait financer à partir de la capacité de payer des gens. Ceux qui n'ont pas de capacité de payer ne devaient pas en fournir plus,
oui.
Et ceux qui avaient plus de capacité devaient en payer plus. Et ça s'appelle utiliser les impôts, les impôts progressifs sur les revenus. La taxe santé à l'encontre de ça, donc on se battait contre ça. Ça ne voulait pas dire qu'on disait qu'il fallait l'abolir et ne pas le remplacer par rien, parce que dans les années précédentes, il y a eu beaucoup de coupures qui ont été faites dans les budgets de la santé, entre autres, et pas juste dans la santé, mais ces coupures de budget-là ont réduit la capacité du réseau public de pouvoir répondre aux besoins des gens, et par conséquent, ça a souvent forcé les gens d'avoir recours au privé pour être capable de trouver réponse à leurs besoins, ou s'ils n'arrivaient pas à trouver dans le secteur public la réponse à ces besoins-là, ou l'accessibilité était comme pas assez grande. Ça prenait trop de temps pour avoir un service dont ils avaient besoin plus rapidement, et donc ils allaient au privé, ils déboursaient encore de leur poche pour être capables de pouvoir avoir accès à un service pour lequel ils n'étaient pas, ils n'avaient pas accès autrement.
Jacques Benoît, vous êtes un témoin, effectivement, de ce qui s'est passé vers une privatisation de la santé. Vous étiez des gens qui ont participé à ce débat de l'Institut Santé-Société, et je dirais que, évidemment, tous les deux, vous avez travaillé pendant des années là, pour plus d'accessibilité, pour davantage de compréhension de qui est l'usager au fond, qui devrait être au cœur de tout ça aussi. Mais j'ai envie de revenir un petit peu en arrière à ce débat-là. En juin dernier, dans Le Devoir notamment, mais ailleurs aussi, une lettre a circulé et c'était signé par plusieurs ténors de la santé. Bon, Mireille, vous en étiez, mais il y avait toutes sortes de chercheurs qui étaient présents, des gens qui ont eu des postes importants en santé aussi, qui étaient présents lors de ce débat. Et en substance, on dit, s'il vous plaît, ça prendrait un moratoire pour toute ou pour cette réforme. Il faut arrêter ça maintenant. C'était il y a un an. Partons de là, si vous voulez bien. Bon, pas un an, juin dernier. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant, là? Est-ce qu'on a besoin d'un moratoire? De quoi on a besoin en ce moment?
Il y a un enjeu politique extrêmement important. C'est que la population, les citoyens, on n'a aucune information sur ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce d'omerta. Quand on a préparé le colloque, on a sollicité certains chercheurs, certains cadres supérieurs d'établissement, des directeurs, qui nous disent « on ne peut pas parler, on trouve ce que vous faites intéressant, mais on ne peut pas se présenter, on ne peut pas prendre la parole en public ». Un des constats importants de la journée, c'est qu'on n'a pas d'informations sur l'impact de la réforme.
Ouais.
Le mot d'ordre, on nous a dit que le mot d'ordre dans les établissements, c'est « tout va bien ».
Oui, et c'est pire encore, c'est pas seulement les chercheurs qui ont une belle tête, qui cherchent un peu sur le bien commun, ou même les syndicalistes. Il y avait même des représentants des cadres qui étaient là et qui disaient « nous ne sommes pas consultés ». Certains ont même dû en recourir à la justice pour avoir de l'information. Il n'est pas possible de savoir exactement l'impact de la réforme. C'est le constat, c'est un des constats importants de votre colloque, c'est ça?
Oui, et que les gens qui ont tenté d'avoir de l'information, autrefois sur le site du ministère, c'était relativement transparent. On pouvait même avoir, à un moment, il y avait un dossier qui disait le nombre de personnes qui attendent à l'urgence.
Oui.
J'ai déjà vu ça.
Oui, bien sûr.
Alors, on avait l'information sur le budget, sur les programmes, le financement, sur le personnel. Actuellement, il y a toutes sortes de rumeurs qui courent. La situation est très propice à ça. Le silence, c'est ce que ça génère. Qu'il y a beaucoup de démissions, qu'il y a beaucoup de maladies. Congé de maladie, on a entendu une personne sur cinq dans le SUS de Mauricie Boisfranc. Il y a une désagrégation du système de santé. Les gens à l'intérieur ne comprennent pas ce qui se passe, puis les citoyens ne sont pas informés non plus. Donc, il n'y a pas d'informations publiques, plus d'informations disponibles au ministère. Je ne sais pas comment les médias peuvent accéder à quelle information. Ce qui est intéressant, quand on a sollicité des chercheurs ou des personnes ou des intervenants, des associations, pouvez-vous, on leur a demandé, faire un bilan de l'impact de la réforme? Ils nous ont dit, on a une lecture très spécifique à partir de nos membres, de notre expérience ou de notre propre réseau, mais on n'a aucune lecture transversale. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est par le croisement des témoignages des différents groupes d'acteurs, de constituer une lecture qui confirme ce qu'on se raconte dans nos salons. Mm-hmm. C'est que c'est très autoritaire. Quelqu'un a évoqué la notion de dictature.
Oui, oui, parce qu'en fait, il n'y a, a aucune rétroaction, ni auprès de l'usager, c'est ce que vous disiez, ni auprès des professionnels, oui. De moins en moins avec les chercheurs, et même pas avec les cadres. Donc, au fond, ça se décide qu'en haut, tout ça.
Exact.
Écoutez, on va revenir avec les solutions qui ont été dégagées un peu, ou à tout le moins les voies d'avenir qui ont été dégagées.
Mais,
oui, justement, Jacques-Benoît.
Juste pour dire, c'est quand même assez aberrant. Ce gouvernement-là, quand il a été élu, souvenons-nous un peu, le premier ministre avait fait de si belles déclarations à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Comme il serait le gouvernement de la clarté, de l'ouverture. Ce serait le gouvernement qui permettrait que l'information circule. Il serait comme, mon Dieu, on aurait pu tout lire ce qu'il s'apprêtait à faire et tout ça. Pourtant, s'il y a un gouvernement qui actuellement bloque l'accessibilité aux données qui nous permettraient de pouvoir analyser correctement ce qui se passe, ben c'est ce gouvernement-là. Mm-hmm. Damien Cointant-Dériopoulos, qui est chercheur à l'Université de Montréal et qui mène souvent des études comme ça approfondies à partir de données, a toutes les difficultés du monde à avoir accès aux données probantes qu'il pourrait trouver sur à la RAMQ, on ne lui donne pas accès aux données. Et conséquemment, si tu n'as pas des données, comment veux-tu être capable de faire une évaluation qui soit solidement appuyée et qui vraiment puisse dire donner leur juste? Hein?
Oui.
Et le ministre, pour lui, ça semble pas trop l'énerver, cette affaire-là. Hein? Je sais pas.
Ben voilà, c'est parce
de toute
que...
façon, il a déclaré que il faudrait attendre la fin de sa réforme dans quelques années pour vraiment l'évaluer. Ben oui, ben évidemment, une fois, quand tu as tout démoli, là, puis que tu as mis le feu partout, puis que tout l'immeuble a brûlé, puis qu'il est rasé, quand c'est fini, là, c'est sûr que là, tu peux dire qu'il y a eu un feu.
Donc, écoutez, avant que vous transformiez en pompiers tous les deux, Mireille Tremblay, Jacques-Benoît, quels seraient brièvement, en une minute, les constats que vous auriez faits et plutôt les jalons d'avenir suite à ce colloque-là?
Mentionner aussi que les comités des usagers ont peu de pouvoir, pas d'accès à l'information, oui. Que les autres ont peur, que l'accès au conseil d'administration est plus possible. On ne sait plus quand est-ce que les réunions qui devraient être publiques se tiennent. Que tous, il y avait quelque chose comme 300-400 membres de conseil d'administration représentant l'ensemble de la population. Dans les différents établissements autrefois, il reste 27 établissements avec une dizaine de membres. Donc, vraiment, toutes
les
places...
Toutes
les places, bien moins que ça. Alors, toute la place que pouvaient occuper les usagers maintenant a disparu. Et même les personnes qui veulent faire des plaintes en centre d'accueil, ils ont peur de représailles.
Oui. Donc, puis les comités de résidents ont un statut particulier. Hein? Puis il n'est pas facile déjà. Les pouvoirs sont limités pour les comités d'usagers. Ben, ce que j'ai entendu dans votre colloque, c'est que les comités d'usagers ont peur de tout perdre maintenant.
Exact.
Écoutez, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine avenir? Hé là là, c'est pessimiste. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé. C'est subtil, mais pessimiste. Je m'en excuse. Mais non, pour se donner de l'espoir, là, quel devrait être le rôle de ces gens qui ont participé et qui ont envie de continuer à travailler à l'avancement de la santé?
On a constitué une délégation tripartite avec des personnes représentant les usagers, les
dont
intervenants, les chercheurs, dont Jacques-Benoît.
Voilà.
Et on a constitué une délégation de personnes volontaires pour identifier un plan d'action, mais il y a une vingtaine de recommandations qui ont été énoncées. Beaucoup tournent autour aussi de l'information. Donc, accéder à l'information, former les gens, les citoyens à prendre place, à prendre la parole, informer, solliciter les médias pour que la population soit en mesure de comprendre ce qui se passe. Donc, on veut vraiment créer... On a parlé même d'une mouvance. Donc, prendre en main... Si on ne surveille pas... Il y a quelqu'un qui a mentionné ça. Si on ne surveille pas les gens qu'on élit, ben, ils vont gouverner sans nous.
Et même, je pourrais rajouter, la citation, c'est « Si on ne s'organise pas, on va se faire organiser. »
Exact.
Écoutez,
le premier
accès
à l'information, vous savez, hein, c'est, oui, bien sûr, on parle d'accès à l'information, accès aux données et tout ça. Mais le premier accès à l'information, là, je devais mettre avant toute chose, là, c'est l'accès de la population à l'information que nous possédons.
Mmh. Voilà.
On, même si on n'en a pas beaucoup d'informations, même si on n'a pas beaucoup de données, celles que l'on a sont déjà extrêmement inquiétantes.
Ouais.
Et cette information-là, ces données-là que nous avons, la population ne les a pas. La population a accès à seulement ce que le ministre déclare et ce que tous les médias répètent ad nauseam, mm-hmm. sans nécessairement poser plus loin de questions ou de réflexions ou d'analyses.
Ben, heureusement qu'on vous a tous les deux. D'ailleurs, on peut lire Mon œil, hein, cette publication qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, notamment rédigé par Jacques Benoît de la Coalition Solidarité Santé. Merci d'avoir été avec nous, Jacques Benoît.
Merci à vous.
Mireille Tremblay, chercheuse, professeure associée, aussi présidente de l'Observatoire sur la démocratie au Québec. Merci beaucoup, Mireille Tremblay.
Merci à toi, Benoît.
On vous suit.